On dit beaucoup que la musique classique est élitiste et je serais tout à fait d'accord de dire oui, mais pas dans le sens où elle s'adresse à une classe sociale privilégiée, parce qu'elle s'adresse à l'élite de chacun, à sa meilleure part, à laquelle on a droit. On n'est pas assez conscient du devoir qu'on a par rapport aux jeunes générations, par rapport aux enfants, de mettre dans leur bagage cette connaissance de la beauté, cet apprentissage à la base. Il y a une ouverture vers la plus haute partie de soi-même à travers l'art que nous nous devons de faire connaître aux enfants. Ayant reçu tout ce que j'ai reçu, un tel trésor au-delà du matériel, il faut que j'en fasse quelque chose pour autrui, pour mes semblables. Je pense aussi que le fait de s'exprimer grâce à un instrument de musique, d'une certaine façon, c'est de plus en plus une forme de résistance et la préservation d'une forme de liberté intérieure. Par exemple, j'aime beaucoup présenter les concerts, d'adresser au public. Ce ne sont pas des propos d'analyse musicologique, mais c'est plus une façon indirectement d'ouvrir la porte par rapport au public, leur dire « Entrez, c'est chez vous, habitons cette maison ensemble et nous sommes tous concernés par cette beauté. » C'est ça mon engagement, c'est liberté, égalité, fraternité, beauté. Voilà.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Liberté, égalité, fraternité, beauté. On aimerait que la devise d'Anne Kefelec soit reprise par les politiques en ces temps difficiles. Car lorsqu'autour de nous la lumière baisse, que la peur rôde, que le désenchantement gagne, l'art nous vient en aide. Se plonger dans un volume de Proust ou même un bon vieux David Goudy, s'immerger dans la contemplation des nymphéas ou de la valse de Camille Claudel, écouter Bach, Chopin ou de la cora malienne, redonne du goût à la vie. Germaine Tillon nous l'avait dit, dans les camps, la poésie, le théâtre, les histoires que l'on se racontait, les ont aidés à vivre. Après l'effroyable séisme qui en 2010 a ravagé l'île et causé 250 000 morts, la pianiste Célimène Daudet a voulu apporter un peu de cette beauté impalpable mais nécessaire aux Haïtiens, dorénavant réduits à l'état de survivants éternellement assistés. Elle a conçu le projet fou d'acheminer un piano de concert sur cette terre dépourvue de tout, puis d'y créer un festival associant musiciens classiques et artistes locaux. La première édition du Haïti Piano Festival aura lieu du 8 au 15 novembre, avec bien sûr des concerts gratuits, mais aussi des ateliers pour les jeunes, des rencontres et des masterclass. Et le fameux piano, acheminé depuis le Panama, est arrivé à Port-au-Prince. Bonsoir Célimène Daudet.
Bonsoir.
Vous serez donc en Haïti le 8 novembre, dans 4 jours, pour démarrer ce premier festival. C'est émouvant et en même temps ça doit être terriblement dynamisant pour vous.
Ah oui, c'est follement enthousiasmant, émouvant bien sûr, mais vraiment très excitant parce que c'est un projet que je porte maintenant depuis plus d'un an, qui a mûri en moi pendant des années à vrai dire, puisque je sentais cette nécessité de créer quelque chose en Haïti, d'apporter quelque chose qui m'était cher et auquel je croyais fort, à savoir la musique classique en particulier. C'était peut-être une manière pour moi de renouer avec une partie de mes racines et aussi...
Votre mère est
d'Haïti. Ma mère est haïtienne. Et donc c'est un pays que j'ai peu connu, mais que j'ai connu à travers les récits de ma mère, les tableaux haïtiens qu'il y avait chez moi, la littérature, et puis les souvenirs qu'on m'a racontés. Mais j'avais plus fantasmé ce pays qu'autre chose, et j'ai eu, ça fait des années que j'avais cette envie d'y retourner et de participer, en quelque sorte, à la vie culturelle haïtienne, qui est déjà très riche, et je pensais pouvoir peut-être m'inviter dans cette vie culturelle et artistique, et notamment à travers la musique classique et plus spécialement le piano. Donc maintenant que ça se concrétise, c'est vrai qu'il y a quelque chose de à la fois de complètement fou, de se dire on y est arrivé, on va y arriver, la chose va naître, et en même temps, bon c'est dans quelques jours, mais c'est encore complètement abstrait, parce que c'est dès les premières notes de musique dans le premier concert que je pense que je vais me rendre compte que on est vraiment là, tous ensemble, autour de ce piano.
Alors, ce qui est formidable, justement, c'est que d'habitude, quand on parle de projet pour Haïti, on parle toujours d'apporter des soins, de la nourriture, de l'aide. Haïti, éternellement assisté, je le disais, c'est le déclic pour vous, ça a été ce séisme atroce de 2010 et tous les malheurs qui se sont suivis. Mais en même temps, quand on réfléchit un peu, on se rend compte que c'est vrai, comme disait Germaine Tillon, l'homme a besoin de pain, mais il a besoin d'un livre, il a besoin de musique, il a besoin de rêver, il a besoin de beauté. On va écouter justement Dany Laferrière nous parler de ce besoin qu'expriment souvent les Haïtiens.
Pour moi, chercher une explication de la situation d'Haïti, c'est perdre complètement repère. Je me souviens quand j'étais adolescent ou j'étais jeune journaliste en Haïti, on riait tellement de ceux qui cherchaient les ethnologues, les journalistes étrangers, les touristes, les bonnes âmes qui cherchaient à expliquer Haïti. Et l'autre chose qui nous faisait rire, mais jaune, c'était ceux qui parlaient d'Haïti en termes de désespoir. Et nous qui vivions sous la dictature la plus noire, l'une des plus terrifiantes d'Amérique, on n'a jamais été désespérés. C'est les autres qui étaient désespérés pour nous. Comment des gens qui ont tant faim, qui vivent dans des conditions politiques si dramatiques, puissent créer une peinture aussi joyeuse, une musique aussi joyeuse, une littérature sans subvention, sans ministre de la culture, sans presque rien et sans aide, et qui soit si vivante? C'est ça la question, parce qu'on nous avait toujours dit que l'art est un luxe, il ne l'est pas en Haïti. C'est vrai que l'espérance de vie est très brève, mais entre vivre et mourir, je me souviens du poète Neruda qui disait « Entre vivre et mourir, je préfère la guitare ».
Célimène Daudet, c'était bien sûr la voix de Dany Laferrière, qui exprime voilà, cette âme haïtienne qui se porte quand même, et c'est une forme de courage, de résilience, vers la beauté, vers la création artistique, vers le rire, la musique qui est très importante. Vous, en dehors de votre enfance, mais vous aviez des souvenirs un peu épars, vous y êtes retourné pour la première fois en Haïti, c'était 35 ans après votre naissance. Vous avez découvert cette île et la force de ce peuple.
Oui, j'étais vraiment frappée par cette énergie que je sentais chez les Haïtiens, et une énergie positive et une énergie très créatrice, à vrai dire. Énormément, j'ai rencontré énormément d'artistes qui créent avec très peu de choses, mais qui créent en permanence comme vraiment une nourriture spirituelle nécessaire pour affronter aussi le quotidien, qui créent, qui transmettent. J'ai rencontré des artisans qui travaillent à partir de pas grand-chose et qui créent des objets et des œuvres d'art absolument merveilleuses. J'ai rencontré des musiciens et j'ai trouvé, aussi bien chez des artistes que chez des personnes non artistes, j'ai trouvé cette espèce de, comme je le disais, d'énergie et d'enthousiasme et de sourire que parfois nous n'avons plus ici en France. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de très révélateur pour moi. Je me suis rendu compte que dans des conditions de vie qui ne sont pas simples, voire parfois dramatiques, cette énergie peut perdurer, persister et même se révéler.
Alors, on entendait au début de l'émission la voix d'Anne Kefleck, qui compte beaucoup pour vous dans votre parcours de pianiste aussi, dire, mais au fond, on a, nous, alors elle parle en tant que pianiste de haut niveau, on a une responsabilité envers les autres, de leur apporter cela qui est aussi nécessaire que le pain. Vous, vous êtes pianiste, concertiste de haut niveau également, et en fait, lorsque vous avez pensé à apporter en Haïti ce piano d'abord, puis ensuite à créer un festival, beaucoup de gens vous ont dit, mais enfin, c'est absurde, apporter un piano, il vaut mieux apporter des sacs de riz. Et non, justement.
Et écoutez, en fait, non. Voilà, j'ai eu très peu de, même pas du tout de réaction de ce type-là. C'était, à vrai dire, un peu mon inquiétude, parce que je me suis moi-même fait la réflexion en me disant, est-ce que c'est approprié ? C'est pour ça que je m'y suis rendue il y a un an, et que j'ai passé plusieurs semaines en Haïti pour vraiment me rendre compte de ce qui avait du sens, ce qui aurait du sens, et ce qui avait vraiment lieu de créer un festival de musique classique, d'apporter un piano de concert, etc. Et je me suis rendue compte que la réaction des gens était vraiment de l'impatience. Ce projet va peut-être faire parler du pays aussi en termes un peu plus positifs que ce qu'on entend très fréquemment ces dernières années dans les médias. À Haïti, on en parle toujours pour parler de la réalité, des catastrophes naturelles, des difficultés politiques, économiques. Mais l'idée qu'on puisse créer quelque chose qui soit artistique et aussi de l'ordre de la transmission pour les enfants, ça c'était vraiment une image qui, je sentais, était chère aux Haïtiens. Pouvoir, en fait, regarder vers l'avenir et créer du beau. Il y a déjà beaucoup de beau en Haïti, mais on n'en parle pas toujours. Donc c'était peut-être l'occasion aussi de participer, de contribuer à ce qu'on crée quelque chose qui fasse parler en termes positifs et heureux d'Haïti.
Alors pendant cette semaine de festival, il va y avoir donc beaucoup d'intervenants, des Français, des Haïtiens, de la musique locale, de la musique classique. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses, vous allez nous en parler. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez jouer au piano?
En fait, je vais très peu jouer parce que je suis initiatrice du projet, je l'organise. Et ce que je voulais, c'était venir avec d'autres artistes et que ce soit d'autres artistes qui aient l'occasion de se produire en Haïti et de rencontrer le public. Donc moi, je jouerai un petit peu dans le premier concert qui sera comme une grande fête autour de ce piano où tous les artistes présents joueront. J'ai choisi des œuvres qui sont vraiment des œuvres que je qualifierais de festive, pour vraiment donner une dynamique de rassemblement et positive. Il y aura des musiciens haïtiens qui joueront de la musique traditionnelle haïtienne. Moi-même, je jouerai avec un chanteur haïtien qui chante donc en créole, et on est en train justement de terminer le travail d'arrangement de sa musique pour que je puisse au piano jouer avec lui. Je jouerai avec un violoniste des œuvres tout à fait classiques, Rachmaninoff, Bach et d'autres compositeurs que l'on connaît bien. Mais surtout, c'est l'occasion que chacun participe à ce concert et rencontre directement le public. Et ensuite, je jouerai dans le dernier concert qui aura lieu le 15 novembre à Port-au-Prince, puisqu'il y aura un concert à Port-au-Prince également. Et là, c'est un concert qui me tient très à cœur parce que je serai en duo piano-violon avec le violoniste Guillaume Latour et le poète et slameur haïtien Béonard Monteau. Je voulais qu'on puisse mêler nos univers artistiques et faire se côtoyer les mots en créole d'un haïtien et la musique classique qui m'est chère.
Donc il y aura du Bach, mais pas forcément celui-ci.
Cette déconstruction, elle nous est inspirée véritablement par l'art de la fugue, donc de Bach, comme si on avait tenté de figurer d'une certaine manière un imaginaire possible de cette musique. L'art de la fugue, c'est issu d'une pratique en musique qui s'appelle le contrepoint. Pour dire rapidement, c'est la superposition de lignes mélodiques, mais la superposition de lignes sans hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix qui est plus importante qu'une autre. Quand j'ai découvert cette discipline musicale, j'étais en pleine réflexion sur mon propre rapport à l'objet, que beaucoup de jongleurs appellent manipulation d'objet. Or, ce que je cherchais, c'était presque tout l'inverse, c'était plutôt un rapport de non-manipulation. Ou peut-être, pour être plus clair, tenter d'approcher ce point où je suis autant manipulé que lui me manipule. C'est-à-dire, là aussi, je cherchais une sorte d'équilibre entre lui et moi. Et du coup, le contrepoint réfléchissait un peu cette problématique.
Après un extrait de votre CD consacré à l'art de la fugue, qui est paru en 2013, Célimène Daudet, c'était la voix de cet artiste si singulier, Johan Bourgeois, qui était d'ailleurs venu nous voir ici à l'Humeur Vagabonde, qui nous parlait de ce spectacle qu'il a imaginé justement avec vous d'ailleurs, autour de ce contrepoint de Bach, de ce déséquilibre qu'il recherche en permanence dans ses spectacles. Et en fait, c'est là parce que vous venez de nous parler de votre plaisir de vous intégrer en Haïti bientôt à cet art des Haïtiens de laisser la parole aux autres. Vous avez toujours aimé ça, aller chercher des artistes singuliers, vous mettre aussi à leur service, sortir un peu du splendide isolement qu'on imagine être celui du concertiste.
Oui, ça a vraiment été un désir très fort, très tôt chez moi, de côtoyer d'autres artistes, d'autres formes d'expression artistique et de voir comment on pouvait parler ensemble un langage commun, en contrepoint justement, sans hiérarchie, comme le dit très bien Johan Bourgeois. J'ai toujours cherché ça, je me souviens quand j'étais étudiante encore au conservatoire, j'avais une amie qui était danseuse et on a eu envie ensemble de trouver le moyen de partager la scène, mais au-delà simplement du simple accompagnement d'un danseur qui évolue sur scène, mais de vraiment créer ensemble quelque chose qui raconte à travers nos deux chorégraphies, la mienne au piano et la sienne avec son corps. Donc j'ai toujours eu ce désir-là, et puis j'ai travaillé donc avec Johan Bourgeois plusieurs années sur ce très beau projet de spectacle de l'Art de la Fugue. L'Art de la Fugue, c'était une œuvre emblématique pour les musiciens, vraiment, que moi je connais depuis mon enfance, et qui était sur mon pupitre au piano, religieusement, à laquelle je n'osais pas toucher, et puis petit à petit je l'ai travaillée, je me la suis appropriée sans jamais oser la jouer en public. Et puis c'est finalement grâce au travail avec Johan Bourgeois et à travers ce spectacle que je me suis lancée à la jouer sur scène. Et je me suis rendu compte que travailler et créer avec d'autres artistes venus d'autres univers permettait parfois de franchir certains obstacles, certains tabous que l'on se fixait soi-même tout seul. Et aussi briser, comme vous le disiez, cette solitude du concertiste. Ce qui ne m'empêche pas d'aimer aussi jouer, être seul sur scène pour un récital tout à fait traditionnel. Mais je trouve que le récital traditionnel, pour moi, se nourrit d'autres rencontres et d'autres collaborations.
Mais d'ailleurs, quand on regarde votre parcours brillantissime, Sénimène Daudet, on se rend compte que l'une des constantes, ça a été le duo. Depuis le conservatoire, vous avez formé des duos. D'ailleurs, il y a un des violonistes qui va venir, c'est Guillaume Latour, en Haïti, avec lequel vous avez formé pendant des années un duo. Oui. Et puis, il y a aussi votre collaboration avec Amanda Favier, maintenant, sur des différents projets.
Oui.
Cette notion de duo, c'est pas seulement pour sortir de l'isolement, c'est comme si, pour vous, la musique, elle devait se nourrir aussi de la présence d'un autre instrument, d'un autre camarade.
Oui, c'est ce que je ressens très fortement, c'est que à deux, c'est déjà pas pareil qu'à trois ou à quatre. À deux, on est vraiment dans le dialogue, on n'est pas dans le groupe au sens large, c'est vraiment deux individus qui se côtoient, et le but n'est pas forcément de constituer un groupe comme ça peut l'être par exemple dans un quatuor à cordes où il faut vraiment que les musiciens trouvent un son commun. Dans le duo, c'est vraiment la rencontre de deux personnalités, le respect de la personnalité de l'autre et de ce qu'il nous propose musicalement, et ça c'est quelque chose vraiment qui me parle énormément en tant que musicienne, et c'est vrai que depuis mes plus jeunes années d'études, j'ai jouer en duo ainsi qu'en soliste, mais le duo créait un équilibre, me permettait de trouver un équilibre à ma pratique soliste. Et inversement, le fait d'avoir une pratique soliste et de peut-être d'avoir une démarche un tout petit peu plus introspective dans ce cas-là permet d'affirmer aussi sa personnalité et de pouvoir ensuite mieux dialoguer avec l'autre. Parce que finalement, pour pouvoir dialoguer, il faut pouvoir être déjà soi. Déjà savoir qui on est pour pouvoir parler à l'autre. Il n'y a rien de mieux que de partager en musique, au fond. Jouer pour soi-même, pour moi, ça n'existe pas. Jouer pour les autres, ça existe. Jouer avec les autres et pour les autres, c'est encore mieux.
Et puis, il y a aussi, chez vous, Sénimène Daudet, aussi un besoin de se relier. Alors, peut-être parce que, comme vous venez des Antilles aussi, par votre mère, il y a eu ce manque de lien avec le passé antillais, le passé haïtien. Avec Amanda Favier, notamment, lorsqu'il y a eu toutes ces cérémonies en France et toutes ces initiatives autour du centenaire de la Grande Guerre, vous avez produit un disque très intéressant autour de la personnalité et de la musique, surtout d'un poilu. C'était Lucien Durosoir. On va écouter pour le plaisir un petit extrait. On vous entendait au piano, Sénimène Daudet, c'était Amanda Favier au violon, dans cette aquarelle signée Lucien Durosoir, un musicien que la Grande Guerre a dévoré et qui est assez injustement oublié. C'est une belle aventure, cette histoire du disque.
C'était une aventure incroyable. En fait, c'est les rencontres qui créent les aventures. Finalement, moi j'ai rencontré il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, le fils de ce compositeur, Lucien Durosoir, qui était venu m'écouter à un de mes concerts. Et puis à la fin du concert, je ne le connaissais pas du tout, il vient me voir, il me donne des partitions de son père en me disant « Mon père a été soldat pendant la guerre de 14, grand violoniste avant la guerre, il a été arrêté dans sa carrière par la guerre et au retour de la guerre, il a arrêté complètement son activité de concertiste et il est devenu compositeur. » Cette histoire m'a vraiment intriguée. J'ai regardé cette musique en rentrant chez moi et je me suis dit, mais cette musique raconte quelque chose. Et donc, j'ai continué à garder le contact avec sa famille. Et puis, ils m'ont ouvert la porte de chez eux et j'ai pu fouiller dans la malle, alors qu'il n'était plus la malle de guerre de Lucien Durosoir, mais dans la malle où étaient conservées toutes les partitions, soit qu'il avait écrites, soit qu'il avait emportées avec lui, qui montraient que la musique pour lui était une nécessité vitale. Pendant la guerre, alors qu'il était au front, il avait des partitions, il les étudiait, il les jouait de temps en temps sur un violon de fortune avec d'autres camarades musiciens qui étaient au front. Et c'est vrai que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, cette démarche que j'ai en Haïti, il y a toujours un lien qui se crée entre les différents projets, mais je me rends bien compte que la musique comme une nécessité était déjà présente dans ce projet-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce disque qui mettait en valeur les musiques qui étaient jouées par ce musicien au front, non seulement ses propres compositions, mais aussi les œuvres qu'il aimait, les œuvres qui le réconfortaient, les œuvres qu'il jouait pour les autres soldats, pour se faire du bien tout simplement.
Alors vous nous disiez il y a un instant, Célimène Daudet, que l'art de la fugue de Bach était resté longtemps avant que vous osiez l'interpréter en public. Il y a comme ça des musiciens qui pour vous restent encore comme des sommets de montagne à atteindre l'un après l'autre?
Oui, alors il y a des musiciens avec lesquels on a plus ou moins d'affinité, mais par exemple pour moi c'est le cas de Schumann, que j'adore et je suis fascinée par ce compositeur, mais je n'en joue jamais. Et j'ai en fait une...
Et pourquoi, vous certaine... savez?
J'essaie de comprendre, je sais que ça viendra à un moment donné, ça s'imposera. J'ai l'impression qu'il est tellement, comment dire, fantasque et aussi passant d'une humeur à l'autre avec énormément de rapidité. On sait très bien qu'il pouvait composer ses œuvres se prenant pour un personnage qui pouvait s'appeler Florestan ou un autre qui s'appelait Eusebius. Et Florestan était le personnage conquérant, positif, confiant. Et puis Eusebius était l'introverti, le mélancolique. Et on peut passer comme ça d'une humeur à l'autre, d'un caractère à l'autre, en une fraction de seconde. Et cette rapidité d'humeur me déconcerte un peu. Alors, pour le moment, je n'ose pas. Alors, chez moi, bien sûr, je joue un peu de Schumann pour moi, mais pour l'instant pas du tout en public, et j'attends d'être prête. Et finalement je me rends compte que certaines œuvres qui nous paraissent comme ça, non pas inaccessibles, mais on se dit que c'est pas le moment, c'est pas forcément une question de maturité. Je crois pas tellement au fait qu'il faille attendre d'être très âgé pour jouer les dernières sonates de Beethoven ou de Schubert.
Il faut être poussé de l'intérieur.
Ouais. Il faut sentir comme un appel, et que c'est à ce moment-là, je ne sais pas ce qui crée ça, à ce moment-là de notre vie, qu'on ressent le bon moment pour dialoguer avec cette œuvre, encore une fois, pour se prendre main dans la main et faire ce chemin ensemble.
Ça s'est passé comme ça pour les sonates de Beethoven pour piano et violon, que vous avez entrepris d'enregistrer une œuvre au long cours avec Amanda Favier.
Oui, ça s'est passé comme ça, parce que c'est encore une fois, les sonates de Beethoven pour piano et violon, c'est vraiment le chef-d'œuvre de musique de chambre pour cette formation-là, piano-violon, et qu'on travaille dès les années de conservatoire, parce que aussi c'est une forme d'écriture assez classique et qui permet aux jeunes étudiants d'aborder le répertoire de musique de chambre, même si ça reste des œuvres extrêmement exigeantes. Donc moi j'en travaillais évidemment très jeune, et puis à un moment donné, dans ce travail de duo, ça s'est en quelque sorte imposé, et on s'est jeté à l'eau, mais c'est vrai que... Il faut sentir qu'on est prêt pour ça, et faire un disque pour faire un disque, ou jouer des œuvres en concert pour juste jouer des œuvres, pour moi ça n'a pas vraiment de sens ni de réalité. L'œuvre, au moment où elle s'impose à nous, ça veut dire qu'on est prêt à passer du temps avec cette œuvre-là, on est prêt à, au quotidien, tous les jours, remettre sur le pupitre cette œuvre, la questionner, la réinterroger, la modeler dans tous les sens, et à un moment donné, on est prêt à la proposer au public. Et même quand on la propose au public, finalement, elle est encore en train d'évoluer, et on la jouera différemment le lendemain soir, et encore plus différemment 2 ou 3 ans ou 10 ans plus tard. Donc c'est en perpétuelle évolution, mais il y a un moment, vraiment un moment que j'adore, moi, c'est ce moment où on sent que c'est maintenant qu'on a envie de s'y mettre, et c'est maintenant qu'on a envie de passer du temps avec ce compositeur ou cette œuvre.
Alors le premier CD est sorti en 2016, on écoute. Thank you.
I'm living now and not in the 19th century.
Je vis aujourd'hui et non au 19e siècle.
I'm living in a certain world.
Je vis donc dans un certain monde.
I don't like this world at present very much.
Je ne l'aime pas tellement. Je le trouve fou et dangereux.
But there you are. I mean, you have
Mais nous y sommes. Il faut bien faire avec.
And in this crazy and dangerous world,
et dans ce monde fou et dangereux,
music is even more a refuge
la musique for many est pour beaucoup encore plus un refuge que dans le passé. Elle est sans relation directe avec les événements extérieurs. C'est différent de la littérature, différent d'au moins une partie de la peinture, parce que c'est sans relation avec quoi que ce soit de tangible. Bien sûr, la musique renvoie à des émotions humaines. Quand on joue du Beethoven, il y a une telle qualité d'émotion. Assurément, ce ne sont pas des sentiments de notre temps.
C'était la voix d'Alfred Brendel, Célimène Daudet. C'était en 1994, il parlait justement de Beethoven et de ses sonates pour piano. Et quand on l'entend parler, en fait, ça reste dans la même lignée que Anne Gefeleck, que vous, ce besoin de partager et cette émotion qui saisit. Mais quand on vous entend jouer, vous, ce qui nous a saisi, nous, ici, dans l'équipe, c'est aussi une énergie, une lumière. C'est-à-dire que là, on entend Brendel, bon, c'était plutôt à la fin de sa vie, dire qu'il est un peu désespéré des temps qu'il traverse. Chez vous, alors c'est peut-être grâce à votre jeunesse aussi, il y a encore cette force, cette joie, cette gaieté de jouer. Ça se sent dans les enregistrements qu'on a entendus.
Pour moi, la musique, c'est avant tout une fête. Même si elle exprime des choses dramatiques, sombres, elle exprime avant toute chose, elle parle. Et le fait qu'elle parle la rend vivante. Le fait de pouvoir la jouer me fait prendre conscience que je suis vivante et que ce que je suis en train de créer à ce moment-là, j'ai pas tellement de recul sur ce que je suis en train de créer, mais le fait de savoir que je suis en train de le faire et que c'est un moment éphémère me rend joyeuse. Se dire que le concert, finalement, est un moment précieux parce qu'il passe. Le disque, c'est un peu différent. Il est fixé. Voilà, c'est un moment qui est gravé comme ça pour l'éternité, enfin, en tout cas pour un certain temps, tant que le disque existe. Mais le concert, c'est à la différence d'autres formes d'art. Brendel parlait de littérature ou de peinture. Le concert est un moment qui ne fait que passer et qu'il faut saisir aussi bien en tant qu'interprète qu'en tant que public. Et ça, je trouve que c'est un moment à ne pas rater, justement, à être vraiment là à 100% et en profiter pleinement. Alors c'est peut-être ça qui rend la chose heureuse.
Alors, je le disais au début, il y a d'abord ce festival en Haïti qui va démarrer le 8 novembre jusqu'au 15. Puis ensuite, vous avez beaucoup de projets, Simène Daudet. Vous allez faire une tournée en Chine à l'été 2018. C'est la première fois que vous y allez ?
Non, c'est pas du tout la première fois. Je suis allée en Chine plusieurs fois. C'est un pays assez intrigant, je dois dire. Les Chinois ont une fascination pour la musique classique et plus particulièrement le piano. Donc, les salles de concert sont toujours pleines à craquer de gens très jeunes. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, et ça, c'est assez, assez galvanisant, je dois dire, de jouer devant un public aussi varié, ce qui n'est pas toujours le cas dans les salles de concert européennes, où le public est parfois un petit peu vieillissant, même si on tente de faire venir au concert des gens plus jeunes. Et en Chine et en Asie, de manière générale, où je vais assez souvent, c'est ça qui me frappe et qui me plaît beaucoup, de sentir un tel engouement. C'est presque comme si le concert de piano était une mode, dans le bon sens du terme, en tout cas.
Et puis, il y a aussi le disque en janvier 2018. C'est un disque de préludes. Et alors, c'est assez amusant, comme il est décrit, des préludes du vieux Debussy et du jeune Messiaen.
Je ne sais pas qui a décrit ça comme ça.
Les préludes écrits par Debussy plutôt quand il était vieux et par Messiaen plutôt quand il commençait.
Oui, ça, j'ai choisi de les mettre en miroir, en quelque sorte. Debussy, c'est un compositeur qui m'accompagne depuis de longues années, notamment ses préludes, qu'il a écrits à la fin de sa vie, dans les années 1912-1913. Il est mort en 1918. Donc ce sont vraiment des œuvres très abouties et très caractéristiques du langage debussiste. Vraiment des petits joyaux. Chaque prélude est un univers à part entière qui nous projette dans dans un monde qu'on peut très bien fantasmer, imaginer, qui laisse libre cours à l'imagination de l'auditeur. Et puis j'ai découvert plus récemment les préludes de Messiaen qui sont beaucoup moins joués chez Messiaen. On joue plutôt des œuvres comme Les 20 regards sur l'enfant Jésus, qui sont plus connues en tout cas. Et ces préludes sont une œuvre de jeunesse qu'il a composée alors qu'il avait à peine une vingtaine d'années et qui ont un lien, il m'a semblé vraiment un lien assez fort avec ceux de Debussy, même si le langage est différent et qu'on sent déjà la patte de Messiaen. Donc j'ai décidé de les réunir sur un disque et le disque paraît donc en janvier 2018, donc au moment du centenaire de la mort de Debussy.
Eh bien, on attendra ça avec impatience. Merci beaucoup, Célimène Daudet, d'être venue nous voir aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir de vous voir, parce qu'on aime beaucoup ce que vous faites en disque. Le Festival d'Haïti, on espère que tout se passera super bien. Et en dernier petit cadeau pour le voyage, puisque nous parlions de préludes, nous partirons avec la voix de Vladimir Jankélévitch, qui dit des préludes, mais des préludes à quoi ?
André Gide, au début de son chapitre sur les préludes de Chopin, dit « Je me suis toujours demandé pourquoi on parle des préludes de Chopin, et un prélude à quoi, c'est le prélude de quoi ?» Moi, je trouve que c'est une question tout à fait bête, pédante, comme si en effet il fallait répondre « La bourse ou la vie, de quoi le prélude est le prélude ?» Mais justement, si le prélude ne préludait à rien, si son essence même n'était pas justement le préludé en général, c'est ça le mystère musical du prélude, c'est qu'il prélude en général sans préluder à rien. N'est-ce pas ? Et qu'il n'est pas nécessaire de dire à quoi il prélude. C'est la différence entre le prélude qui est un mystère musical et l'introduction, l'avant-propos. L'avant-propos, bien, l'avant-propos de quel propos ? L'introduction à quoi ? À un livre, on l'indique sur la couverture. Mais le prélude est de telle sorte qu'il n'est pas obligé de dire de quoi il est le prélude. Il est le prélude en général. Et puis après tout, n'est-ce pas la vie elle-même et la musique tout entière qui est ce prélude ? Ce prélude est quelque chose qui n'adviendra jamais et qui est éternellement à l'état de prélude, dont la conclusion n'arrive jamais. Donc, à mon avis, on est digne d'être, je ne dis pas un musicien, parce que je ne suis pas plus digne que les autres, mais d'avoir accès à la musique, dans la mesure où on ne demande pas de quoi le prélude est le prélude.